Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc ce que j'aimerais partager avec vous fait un peu la suite d'un autre message qui a eu lieu déjà ici. Et donc, j'ai parlé de deux choses dernièrement. Il y a eu un message sur certaines choses à mettre en route dans notre vie, et j'avais parlé d'un mot assez compliqué qu'on appelle la procrastination, et donc ça veut dire toujours reporter les choses et les faire à un autre moment. Et donc ça, c'était une des premières choses. Et la semaine dernière, j'avais partagé un message qui disait que Dieu t'a donné un cerveau, utilise-le. Et un certain nombre de questions qu'on doit se poser pour pouvoir progresser dans la vie. Alors j'aimerais qu'on puisse voir la suite aujourd'hui. Et donc le message que je voudrais vous donner, le titre, ça serait « Quelle sera ta réponse ?» Il y a des questions précises et sur le site d'enseignemoi.com aussi, il y a une des rubriques qui s'appelle « Pasteur, j'ai une question ». Donc dans un test ou un examen, il faut répondre aux questions. Si vous ne répondez pas aux questions, vous avez zéro, vous avez rien. Donc notre vie, c'est aussi un test en quelque sorte. On passe un examen au quotidien. On parle de l'école de la vie. Bon, certains n'aiment pas l'école, mais on y est quand même. Et donc, on passe des tests au quotidien. Si on n'a pas de réponse, bah, des fois, c'est l'échec. C'est le zéro. Désolé de le dire comme ça. C'est un peu brutal, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on a plusieurs réactions qu'on peut avoir face à une question. Des fois, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'ignorer la question. Parce qu'il y a des gens, et je m'explique, il y a des gens, quand ils posent des questions, c'est pour vous piéger. Vous connaissez quelqu'un qui a été dans cette situation? C'est un peu une question d'école du dimanche, hein, la réponse c'est toujours Jésus. Il a été dans les évangiles, confronté à des personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par la réponse de la question en tant que telle, mais ils étaient juste intéressés de pouvoir le piéger. Vous vous rappelez de quelques histoires? Donc, maître, devons-nous payer l'impôt? Donc on vient avec une espèce de fausse humilité, comme si on devait recevoir la sagesse auprès du maître, et en réalité, il voulait le piéger. S'il dit, oui, il faut payer l'impôt à César, alors, bah, vous voyez bien, hein, c'est un collaborateur avec l'envahisseur romain, il était piégé. S'il dit, non, il ne faut pas payer l'impôt à César, eh ben, c'était quelqu'un qui était en train de se révolter contre le pouvoir romain, qui pouvait donc être considéré comme un traître et donc envoyé en prison et exécuté. Donc c'était une question piège où de toute façon la réponse, elle était très très dangereuse. Et c'est là que la sagesse de Dieu se manifeste et l'Esprit de Dieu lui donne cette inspiration de dire « Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il y a sur la pièce ? De qui est-elle à l'effigie ?» Et donc sur les pièces, il y avait l'image de César. Et il a dit cette parole qui reste encore, « Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et même dans notre pays qui prône beaucoup la laïcité et séparation Église-État, cette expression est encore dans le langage populaire, on dit régulièrement « Rendons à César ». Eh bien, ça vient de là. Autre question piège pour le maître. Voilà une femme surprise en état d'adultère. Vous trouverez l'histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme ? Est-ce qu'on doit la lapider ? Parce que Moïse a dit « Il faut la lapider ». D'après la loi de Moïse, il faut la lapider. Là encore, si Jésus dit « Oui, la loi dit de la lapider », les gens auront une image de lui comme quelqu'un de dur, qui ne sait pas manifester de l'amour ou de la compassion. Et s'il dit qu'il ne faut pas la lapider, à ce moment-là, il se dresse contre la loi. Donc là encore, question piège est faux dans les deux cas. Et Jésus trouve là encore la réponse. Et donc la réponse admirable, que celui qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre contre elle. Et ça, une fois de plus, c'est resté dans nos habitudes culturelles qu'on utilise cette expression. Que celui qui est sans péché, bah, qu'il jette la première pierre. Donc on voit plusieurs situations où des questions pièges peuvent avoir des réponses par le Saint-Esprit. Et donc, pour nous aussi. Encore une autre histoire. Voilà une belle histoire selon la pièce de théâtre de Marc, l'expérience. la femme qui a eu 7 maris. Et donc, dans la pièce de théâtre, il dit, ben voilà une belle histoire. Hein. Une femme qui a eu 7 maris, donc l'un après l'autre, pas en même temps. Mais elle a eu le premier mari, il est mort, et puis, ben oui, mais parce qu'il faut préciser maintenant, on est dans un monde de bouleversement. Et donc, le premier meurt, donc son frère devait prendre la veuve. C'était dans un contexte Israël où il fallait que le nom du défunt soit conservé. Donc, tous les 7, un après l'autre, ils ont eu la femme, et maintenant elle meurt. De qui sera-t-elle la femme finalement? Donc voilà une question importante. Mais qui a posé cette question? La Bible nous dit que ce sont les Sadducéens, qui étaient une secte parmi les Juifs, qui ne croyaient pas qu'il y ait des esprits, et ils ne croyaient pas qu'il y ait une résurrection. Donc leur question piège, c'était, mais comment est-ce que c'est possible qu'on puisse être marié dans l'au-delà, alors qu'il n'y a pas de résurrection? Donc, confusion, plus fausse doctrine, plus vouloir piéger le maître, donc tout était faux. Mais là encore, Jésus trouve la réponse et dit que dans le monde à venir, les hommes ne prendront plus de femmes et les femmes n'auront plus de mari, mais ils seront comme des anges. Comme les anges, ça a donné une croyance populaire basée sur cet évangile qui dit que les êtres humains, quand ils meurent, deviennent des anges. Mais non, il est dit qu'ils seront comme les anges. Les anges sont des êtres célestes qui ne se reproduisent pas. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de mari, femme, enfant. Ils sont créés par Dieu, ce sont des êtres célestes différents. Mais Jésus a dit, ils seront comme les anges, c'est-à-dire que dans l'éternité, on va vivre dans un état différent. La famille, la reproduction telle que nous la connaissons au niveau être humain, c'est pour cette terre. C'était parce que Dieu voulait se créer une famille, des gens qui sont en relation avec lui, des esprits avec qui il puisse communier et communiquer. Et donc, après, ça sera différent. Donc, les petits-enfants ne se transforment pas en anges. Les êtres humains qui sont près de Dieu, ils ne sont pas chargés d'une mission pour ceux qui sont sur la terre. Pourquoi devraient-ils le faire? Donc, une question, pourquoi devraient-ils le faire? Alors que Dieu a justement créé ces êtres célestes, les anges, qui sont ces messagers, qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour nous venir en aide, en secours. D'accord? Donc, avec toutes ces questions, je voudrais qu'on puisse revenir maintenant à notre partie principale, de faire travailler nos ménages et de ne pas laisser les autres réfléchir à notre place pour nos choix de vie et les décisions à prendre. Dans certaines circonstances, on a aussi des instructions dans la Bible. Par exemple, le livre des Proverbes, il nous est dit que c'est Salomon, l'homme qui a reçu de la part de Dieu la plus grande sagesse qu'on ait jamais vue sur terre. Les rois de tous les pays aux alentours venaient auprès de lui juste pour l'entendre pendant un moment. Nous avons des illustrations de ce type qui sont dans le monde actuel. Il y a des anciens présidents, que je ne citerai pas, qui vont des fois donner une conférence pour 100 000 dollars ou euros, etc. Quelques minutes, les gens les écoutent pour entendre leur sagesse. Mais nous avions du temps de Salomon beaucoup plus, mais ce même phénomène que quand il y a quelque chose de Dieu qui se manifeste, les gens sont prêts à venir, à entendre et même payer pour ça. Alors, dans certaines circonstances, je dis, dans les proverbes, nous trouvons des idées de comment savoir. Par exemple, dans le proverbe 26, versets 4 et 5. Dans mon ancienne version, j'avais l'insensé. La nouvelle version 21 répond un homme stupide. Alors, il est dit, ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Et le verset 5 nous dit, réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Alors quelqu'un un jour a dit, là la Bible, elle se contredit. Au moins, on aurait pu s'arranger pour que ces versets ne soient pas l'un derrière l'autre. On aurait pu les mettre plus loin pour que les gens se rendent pas compte que là, il y a une contradiction. Mais en fait, ce sont deux circonstances différentes et qui sont très intéressantes pour nous. Parce que nous, on aimerait souvent des choses simples. Des choses simples. Une question égale une réponse simple, toujours la même. Et dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Il y a des circonstances qui font qu'une réponse peut être bonne un jour et pas bonne l'autre jour. Et il y a des choses qu'il faut des fois dire à quelqu'un et des fois il ne faut pas le dire. Donc si quelqu'un veut discuter et veut rien entendre, comme tous ces gens qui sont venus auprès de Jésus en disant « Maître » et tout, mais en réalité, ils ne voulaient pas recevoir des réponses de sa part. Ils n'étaient intéressés que de le piéger. Et des fois, il peut vous arriver la même chose. Quelqu'un n'est pas intéressé que vous partagiez votre foi avec lui. La seule chose qu'il veut, c'est vous piéger sur « Oh, tu vois, t'es croyant, mais c'est ridicule. Hein » À l'époque où on vit maintenant, avec le progrès technologique, comme s'il avait quelque chose à voir là-dedans. Et donc, il faut qu'on sache comment répondre dans chaque circonstance. Maintenant, revenons sur quelques questions qu'on avait vues ensemble la dernière fois. La Bible nous disait par le prophète Agée, « Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Et sur quelques questions de la semaine passée que je vous proposais pour votre réflexion, j'en ai sélectionné quatre qui correspondent aux quatre priorités de votre vie. Et j'aimerais qu'on procède en ordre inverse. Donc on ne va pas dire d'abord le numéro 1, 2, 3, 4, on va d'abord partir du 4. Si vous ne trouvez certaines choses qui sont importantes dans votre vie, pas dans les 1, 2, 3, 4, c'est qu'ils sont dans les 5, 6, 7, 8, et donc ils ne sont pas prioritaires. Mais la quatrième, qui va peut-être étonner quelques-uns, c'était la question que je vous avais posée, dans quelle discipline spirituelle spécifique voulez-vous faire du progrès et comment vous allez vous y prendre? Une discipline spirituelle. Rappelez-vous, Dieu est esprit. Il nous a créés à son image. Nous sommes esprit. Nous avons une âme, le siège de nos émotions, de notre volonté, de nos réflexions, de notre intellect. Et nous vivons dans un corps. Mais maintenant, spirituel, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire dans l'esprit? Donc le domaine, c'est votre place dans le corps. Vous êtes des esprits. On fait partie d'un corps qui s'appelle l'Église, tout simplement. Nous sommes le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on peut y faire comme discipline spirituelle? La discipline spirituelle, c'est la fonction qu'on aura dans le corps. Qu'est-ce qu'on va y faire, tout simplement? Peut-être ça vous paraît compliqué ce que j'ai dit, discipline spirituelle, ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire dans l'esprit, dans le corps? Dans l'Église. Pourquoi l'Église? Parce qu'il y a deux organismes sur Terre. Il y a l'Église et le monde. C'est très simple. Les gens pensent, oh, c'est compliqué, toutes les religions. Il y a la religion de Dieu et celle du diable. Il y a l'Église et le monde. Il y a les croyants et les païens. C'est pas plus compliqué que ça. Ceux qui sont de Dieu, c'est ceux qui bâtissent. C'est ceux qui aiment. C'est ceux qui contribuent à ce que l'environnement devienne meilleur. Ceux qui agissent selon le diable, c'est ceux qui détruisent. Ceux qui manifestent la haine. Ceux qui rendent le monde pire qu'il n'est. Donc vous voyez déjà que ben des fois, tout croyant qu'on est, on peut aussi basculer de l'autre côté, avoir un comportement qui fait du mal. C'est pour ça qu'il faut se positionner régulièrement. Donc quelle va être notre part? Quel va être l'impact de l'Église? Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes ceux qui empêchez la corruption, vous êtes ceux qui apportez de la lumière. Donc quelle va être votre part? L'impact de l'Église dans le monde, le réveil, la croissance, voilà ce qui nous intéresse. Le réveil s'adresse à qui? Aux païens? Non, ils sont morts spirituellement. Eux, ils n'ont pas besoin de réveil, mais ils ont besoin de la vie de Dieu, qui leur redonne la vie. Un réveil, c'est pour les croyants, ceux qui sont endormis. Donc il y a deux catégories, vous voyez? Donc, quelle va être notre part dans la discipline spirituelle, dans la croissance? Vous aurez vos questions et vos réponses, mais moi je vous donne une direction, c'est Éphésiens 5, 18. Il dit « Soyez remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns et les autres dans la crainte de Christ. Soyez remplis de l'Esprit. » Et la version la plus juste serait « Soyez continuellement en train d'être rempli de l'Esprit ». Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un moment précis. C'est comme l'excellence. Des fois, on dit « Ça y est, on a atteint l'excellence ». L'excellence n'est pas une position. L'excellence, c'est une façon d'être où on cherche toujours à progresser, s'améliorer, se laisser transformer. Ce n'est pas un état. De la même façon que vous pouvez être rempli de l'Esprit un moment, et le moment d'après, vous pouvez être à côté de la plaque, pour que tout le monde comprenne bien l'expression. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, rempli de l'Esprit pendant un instant, a une révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. L'instant d'après, il veut empêcher Jésus d'accomplir son ministère en disant « Ah non, 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 ça ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu que tu ailles pour te sacrifier et mourir. » Donc un instant rempli de l'Esprit, l'autre instant, c'est celui où Jésus dit « Va des rétro Satanas, le fameux qu'on connaît, arrière de moi Satan. » Tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et hélas, on a aussi des illustrations dans notre propre vie. On a un coup de génie, on peut dire, Dieu nous a remplis, il nous a utilisés, non ? Et l'instant d'après, on peut échouer lamentablement, et puis se dire, j'en suis encore là. Et parce qu'on n'est pas parfait, la perfection, c'est un état aussi que nous recherchons en nous laissant transformer. Mais le désir est là, l'appel de Dieu est là, soyez remplis de l'Esprit, et il nous donne des méthodes d'y arriver. Si vous vous entretenez par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, si vous êtes dans l'action de grâce, vous aurez moins de chances, entre guillemets, si on peut appeler ça une chance, de tomber juste après. Au contraire, la Bible dit des choses sur la façon dont on prépare sa chute. Par exemple, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donc, on a des pistes. Et dans 1 Corinthiens 14, il nous est dit « aspirez aux dons spirituels ». Donc, nous avons un nouvel aspirateur à la maison, ça y est, après de nombreuses années de bons et loyaux services, l'ancien aspirateur n'aspirait plus vraiment, et il faisait beaucoup de bruit, et je l'avais réparé X fois pour toutes sortes de petites bricoles, et maintenant, on a un aspirateur silencieux et qui aspire bien, et on se rend compte que ben, c'est quand même génial cette invention, parce que ça ôte la poussière, ça nettoie, et on aime quand c'est propre à la maison. Mais on se rend compte aussi que ça a été écrit du temps où il n'y avait pas d'aspirateur, mais on peut imaginer d'autres choses. Vous pouvez aspirer de la soupe qui est trop chaude, je ne sais pas si vous, comment vous mangez votre soupe, mais des fois on entend des bruits. On veut le manger, mais ce n'est pas à la bonne température. Voilà. On se débrouille comme on peut, mais en tout cas on comprend que c'est un phénomène qu'on cherche à faire rentrer en nous, on aspire. Donc on aspire à certaines choses, des fois on soupire aussi, hein, ça c'est l'inverse. Donc aspirer aux dons spirituels. Aspirer, ça veut dire je les désire vivement. J'aimerais qu'ils se manifestent. Les dons de l'esprit, les réalités célestes, c'est voir du surnaturel se manifester dans ma vie. L'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Ma parole et ma prédication » C'est pas seulement pour les prédicateurs, on peut dire les mots que je dis, les paroles d'encouragement, les témoignages que je donne aux gens, les choses que j'enseigne autour de moi, ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce que nous partageons, c'est pas sur un habile raisonnement, c'est plus que ça. C'est une révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu produit quelque chose. Donc ça c'était mon point numéro 4. Ensuite, en point numéro 3, donc c'était dans le domaine de notre place dans le corps et ce que je fais dans l'Église. Domaine numéro 3, quelle est la chose à faire, on s'était posé la question, pour améliorer la qualité de votre vie de famille. Donc ça peut être dans le domaine du foyer ou du couple, ou même de la famille hors du foyer. Et là, j'ai pensé à quelque chose de très important aussi. C'est les relations qu'on peut avoir avec des gens. Au cours de notre vie, on se sera forcément à un moment ou un autre disputé, on n'aura pas été du même avis. Des fois, il y a des parents éloignés, on ne se voit pas. Et la Bible dit quelque chose concernant la réconciliation. Dans le monde, vous savez, tout n'est qu'un rapport de force. Qui va l'emporter ? Qui a raison ? Et c'est une source de beaucoup de disputes. Mais dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire, il y a des choses nouvelles qui vont se manifester. Une nouvelle façon de voir. Une nouvelle façon d'avoir des rapports humains les uns avec les autres. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous est dit que cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation, vous voyez, c'est vraiment un service pour Dieu, quelque chose de tout à fait particulier, où nous nous engageons à travailler à ce que les gens soient réconciliés, nous-mêmes aussi. Alors, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Et ça, je trouve extraordinaire. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Si on se place maintenant dans une réflexion de, comme dans le monde, de dominant à dominé, Dieu est tout puissant, il dit, bon, si vous voulez mes faveurs, vous vous écrasez, hein, c'est moi Dieu, je suis celui qui est tout puissant, et maintenant vous faites ce que je dis. Et là, nous avons quelque chose qui est extraordinaire, justement, c'est le Dieu tout puissant, par le biais de ses ambassadeurs, de ses messagers, supplie l'être humain, laisse-toi réconcilier avec moi. Vous vous rendez compte? C'est vraiment complètement renverser l'ordre des choses. Et c'est ça la dimension de l'amour, c'est que le fort ne cherche pas à s'imposer, mais le fort cherche justement à relever celui qui est faible et qui a besoin de quelque chose. Donc de la même façon, dans la réconciliation, ce n'est pas avec mes arguments, j'écrase l'autre personne pour qu'elle me supplie que tout se passe bien entre nous. Mais au contraire, je cherche à voir qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre pour qu'on vive une relation réconciliée. Donc c'est plus qui a raison, qui a tort. C'est le plus important, c'est la qualité de la relation. Dans 1 Timothée 6, Paul écrit à Timothée qu'il y a des disputes de mots qui apportent la ruine. Il y a des maladies, des controverses. C'est comme une maladie, les controverses, les querelles de mots. Et il dit, c'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons. Vous voyez que c'est à l'envers de 1 Corinthiens 13 qui dit que l'amour croit tout, supporte tout, croit toujours le meilleur, etc. Et là, on a exactement l'inverse. On a les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons. Les discussions violentes sont le résultat de ces disputes de mots. Donc à nous de manifester le fruit de l'esprit, un des fruits de l'esprit étant la bienveillance ou la bénignité, en disant, bon, on a parlé tout à l'heure des cigales et des fourmis, hein. Tu es cigale, je suis fourmi, ou l'inverse, mais on cherche à passer par-dessus les petites choses qui ne sont pas importantes en vue de vivre l'essentiel sur les grandes choses. Donc je me rends compte que ma troisième question était en fait la deuxième, elle aurait été plus prioritaire, mais voilà la deuxième chose importante. La question que je vous avais posée, c'est quelle sera la chose que vous allez demander à Dieu qui soit vraiment humainement impossible? Donc je vous lance un défi, c'est toujours mon travail de vous lancer un défi à votre foi. Chaque fois que vous avez quelque chose qui est humainement impossible, c'est une bonne opportunité pour Dieu de manifester un miracle. Si vous arrivez sans lui, alors vous n'avez pas besoin de lui. Mais on doit vivre dans cette dépendance. Et il aime venir à notre rencontre et nous aider dans les domaines où nous pensons que c'est impossible. Alors là, c'est un domaine de la réalisation de certaines choses, du travail, des études, le business. Alors, quelles sont les choses impossibles dans le monde actuellement? Ben, avoir un bon job sans avoir un diplôme. Difficile, voire impossible. Trouver du travail après 50 ans. Je vous dis l'ensemble des choses que les gens autour de nous peuvent penser. Trouver un travail après une longue période d'inactivité, une longue période de chômage. Avoir du succès dans le business dans une période de crise. Voilà, devenir major de promotion dans une première année de médecine. L'ensemble impossible, mais pourtant il y a toujours une personne qui réussit tous les ans. Hein. Donc, toutes ces choses qui peuvent nous sembler impossibles, ce sont des bons défis pour nous à relever. Une fois de plus, si on croit que nous, on peut réaliser le miracle, il n'aura pas lieu. Mais on peut se poser la question, comment un miracle peut-il se produire? Alors, le miracle qui nous marque le plus en tant que chrétien, je ne sais pas à quoi vous pensez vous, mais moi il me semble évident, c'est la naissance de Jésus. C'est le miracle. Comment Dieu a fait pour s'incarner en un homme? Et Marie, qui a été choisie pour être la mère de Jésus, elle-même s'est posé la question. Comment est-ce possible? Elle a eu cette visite de l'ange. Un ange dit, un être céleste envoyé par Dieu avec un message. Elle dit, Marie, n'aie pas peur. Voilà, tu deviendras enceinte. C'est dans Luc 1 que je lis, verset 31. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement son règne n'aura point de fin. Imaginez pour une jeune fille entendre des paroles comme ça. Même Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Cette question que nous avons toujours. On demande, Seigneur, comment? Seigneur, pourquoi? Seigneur, quand? C'est pour ça que je voulais un peu commencer à retourner les questions de... C'est pas toujours à nous de questionner Dieu, mais il nous pose aussi des questions. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Comment tu vas répondre? Comment tu vas faire pour qu'il y ait des changements? Mais ici, Marie pose la question. Comment cela se fera-t-il? Réponse de l'ange. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la réponse est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est une personne, c'est une puissance et c'est celui qui nous confère cette capacité de faire des choses surnaturelles. C'est la seule façon, c'est la seule réponse de Dieu. Le Saint-Esprit viendra. Et au verset 37, quand Marie accepte cette parole de Dieu, il nous est dit par l'ange de nouveau, rien n'est impossible à Dieu. Et donc quelqu'un a rendu cette traduction d'une autre façon, il a dit, il n'est aucune parole de Dieu qui soit sans accomplissement. Aucune parole de Dieu n'est sans accomplissement. Donc cette chose impossible, moi je vous encourage vivant, demandez-la à Dieu. Permettez-lui de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Demandez-lui des choses impossibles. Et après, tout le monde pourra dire, mais ça c'était pas possible pour que toi tu puisses réaliser ça. Il doit y avoir quelque chose que nous ne comprenons pas. Et la réponse c'est le Saint-Esprit. Et je termine sur la question, donc la plus importante à mon sens. Vous voyez, c'est comme des fois on fait un peu l'arrivée dans le désordre pour qu'on arrive à l'apothéose, le gagnant de l'année. La question la plus importante, c'est quelle est la chose à faire cette année pour vivre plus intensément ma relation avec Dieu? Qu'il cesse d'être lointain. Je ne sais pas s'il est lointain ou proche pour vous. Des fois, c'est dans le ressenti. On a dit Dieu est proche de nous. Il est présent avec nous, ce n'est pas la question. Et c'est la façon dont on le vit, c'est la façon dont on le ressent. J'aimerais justement qu'on revienne sur les paroles du chant là de Corinne Lafitte. Il était dit « Dans mon cœur, tu as placé des chemins tout tracés. Tu as changé mes haillons en vêtements de fête. » Donc, celle qui a composé ce chant et qui l'a chanté de cette façon a déjà expérimenté des choses. Mais pour certains d'entre nous, c'est encore en découverte. Dans le psaume 81, il est dit que certaines personnes peuvent trouver les chemins de Dieu qu'il a tracés. Donc, des fois, il faut les chercher avant de les trouver. Il les a préparés, oui, mais il faut les chercher. Dans Ésaïe 61, il est dit « Laissez vos vêtements de deuil et de cendre et revêtez-vous d'un vêtement de louange, par exemple. » Donc, il y a des choses à faire, mais à un moment donné, on peut expérimenter. « Je viens t'écouter chaque matin. » Je viens te parler, saisir ta main. Tu partages avec moi ce qui t'est cher. Tu me dis souvent ce que tu vas faire pour refaire à mon tour ce que je vois faire au Père. Voilà le bon résumé de cette question numéro 1. Vivre intensément notre relation avec Dieu, c'est ça. Écouter le matin. Lui partager les choses. Entendre. Lui donner la main. Vivre quelque chose, une proximité comme un ami. On a dit qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont vraiment accaparés par le travail, le succès, la réussite, le domaine professionnel. Ils pensent autrement que les autres. Ceux qui ont une vraie vie, ils ont des amis. Ceux qui, pour qui la profession c'est numéro un, ils ont des relations et des contacts. Ils voient dans leur carnet de rendez-vous qu'est-ce qui pourrait faire du bien à mes affaires, à quel moment pourrais-je avoir besoin de tel ou tel numéro, personne qui intervient. Donc il y a une grande différence, mais Dieu ne veut pas être juste notre businessman pour faire tout réussir ce que nous voulons. Il veut être notre ami, prendre par la main, nous emmener quelque part, partager des choses. Donc c'est ce qui donne du sens à notre vie. Et si on ne sait pas certaines choses, il nous est dit dans Romains 8, 26, « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. » J'en ai parlé plusieurs fois maintenant. Vous avez compris que le Saint-Esprit aura une place essentielle dans votre nouvelle année si vous voulez qu'il y ait des changements. Il n'y a pas de changement sans une interaction et une proximité avec l'Esprit de Dieu. Donc donne un sens à ta vie. C'est le domaine de sens à la vie. question existentielle, communication avec mon Créateur. Il y a des années de ça, il y avait une petite brochure, c'était un petit livre, c'est écrit « Le désir et le plaisir de prier ». De prier n'est pas le devoir religieux, pas du tout, oubliez ça, mais parler avec Dieu, avoir plaisir à lui dire ce qui ne va pas. Voilà, c'est un titre d'un livre et ça devrait nous parler, nous enthousiasmer. Et pour la conclusion, je reviens à notre Agé chapitre 1, quand il était dit que Zorobabel, le fils de Shéatiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple, donc le gouverneur, le grand prêtre et tout le peuple, vous voyez toutes les catégories, écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Le peuple fut saisi de crainte. On avait déjà parlé de la crainte. C'est pas la crainte dans le sens de peur, ce qui nous paralyse. C'est la crainte dans le sens, waouh, on se réalise. C'est la présence de Dieu. C'est le Créateur. C'est lui qui parle. Il a des choses à dire dans ma vie. C'est pas moi qui dois diriger. Donc, ils étaient saisis et voilà le message. Premièrement, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Donc la conclusion, c'est encore une fois, c'est l'Éternel qui, par son Saint-Esprit, réveille notre esprit. C'est ça qu'on a besoin, le réveil en nous, de réveiller l'esprit. Et la parole de Dieu doit produire cela en nous, cette conscience de la présence, de la réalité de Dieu. Et alors, quand on est saisi par cette crainte de l'Éternel, il y a trois choses qui se manifestent. Il nous rassure, d'abord, n'aie pas peur. Toujours, quand on est en présence vraiment du surnaturel, je suis désolé de le dire, mais ceux qui s'amusent à regarder des films d'horreur, il y a quelque chose qui se produit en eux. Il y a la peur qui les saisit, c'est une arme du diable qui cherche à les maîtriser. Mais ici, quand on est en présence, nous, du surnaturel, il y a aussi quelque chose qui se produit. Dans la Bible, la plupart du temps, les gens tombaient à terre. Ils étaient comme effrayés par ce contact. Et là, toujours la réponse, c'était « n'aie pas peur ». Deuxième chose, il nous assure de sa présence à nos côtés. C'est ce que Agé a dit, je suis moi-même avec vous. Et la troisième chose, c'est que nous avons l'assistance du Saint-Esprit. Donc je vous propose sur la base de Luc de faire une bonne déclaration avec moi. Le Saint-Esprit vient sur moi.
Le Saint-Esprit vient sur moi.
La puissance du Très-Haut me couvre de son ombre.
La puissance du Très-Haut me couvre de son ombre.
Et rien n'est impossible à Dieu. Et donc, vous pouvez déclarer cela aussi souvent que vous le voulez. Vous voyez, comme un médecin qui ferait sa prescription 3 fois par jour, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Mais c'est une réalité. Et parce que l'entendre une fois, c'est une chose. Le dire une fois, c'est une autre chose. Mais le dire jusqu'à ce qu'on en soit imprégné, qu'il y a une difficulté dans ma journée, et voilà, j'ai cette réaction. Le Saint-Esprit vient sur moi. La puissance du Très-Haut me couvre de son ombre. Et rien n'est impossible à Dieu. Ça sera, je pense, très, très efficace et puissant. Et qu'on ait cette réponse comme Marie l'a donnée. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.